Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Europe 1. Il est 4h58, nous sommes le lundi 14 janvier 2019. Et inutile de se mentir, la semaine va officiellement commencer dans quelques secondes. Dans quelques secondes se succéderont à une cadence folle, journaux, interviews, reportages. Alors profitons ensemble de ces derniers instants de quiétude, où ma complice Eva Rock n'est pas encore totalement sortie de son rêve érotique.
Avec les pingouins.
Oui, encore. Où Céline Dacosta pose les ultimes questions éditoriales indispensables à une matinale journalistiquement irréprochable.
T'as fait un crumble ?
Et où tous ensemble, nous échauffons nos organes pour que d'un point de vue sonore et sensoriel, ce 5-7 soit le plus proche possible d'un 5-7.
C'est chaud. Il est 6h08, Mathieu Noël.
Oh yeah.
Allez, c'est parti pour 120 minutes de... Bonjour Céline, bonjour Eva.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Céline Dacosta, si vous deviez donner un mot pour qualifier le ciel de cette journée. Compliqué parce que je crois que le ciel est contrasté aujourd'hui.
Oui, plutôt nuageux et pluvieux alors, parce qu'il y a un peu de soleil mais pas beaucoup.
Ah oui, pas beaucoup de soleil malheureusement.
Je suis désolée, à part près de la Méditerranée.
Mais comme toujours, mais j'ai envie de dire. Eva, quelles questions avez-vous posées à nos auditeurs via les réseaux sociaux du 3615 Europe ?
J'étais interloquée parce qu'il y a plusieurs articles parus ces derniers jours qui affirment que Netflix a tué la télévision. Donc je vous ai demandé à vous auditeurs, est-ce que vous la regardez encore la télévision et si oui, quel genre
avec ça, moi je vais répondre tout de suite à ce débat. Il y a pas, personne ne tue la télévision se transforme. On ne regarde pas la télévision en flux, on choisit sur sa télévision ce qu'on veut regarder.
Et bien figurez-vous que les auditeurs ils pensent comme vous, vous allez voir, on a déjà reçu des messages.
Mais évidemment que les auditeurs pensent comme moi.
Vous
ça, c'est la France
sur Twitter
d'aujourd'hui.
Avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva. Alors je me suis renseigné auprès des plus hautes autorités, je suis même remonté jusqu'au Conseil d'État. Hélas, il semblerait que toute tentative d'annulation de la semaine à venir soit impossible. Alors ne reculons pas, affrontons vaillamment notre destin. Debout les copains, c'est parti.
Et nous sommes le lundi 14 janvier. Merci d'avoir choisi Europe 1. Excellent réveil à tous, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce lundi 14 janvier, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Transformer les colères en solutions et bâtir un nouveau contrat pour la nation. La lettre qu'Emmanuel Macron adresse ce matin aux Français. À la veille de l'ouverture du débat national, les détails de ce courrier dès le début du journal. Rue de Trévise, à Paris, c'est l'émotion après la violente explosion de samedi. Le bilan s'alourdit, 4 morts, dont 2 pompiers. Et puis les footballeurs de Marseille en panne de résultats, chahutés par leurs supporters au stade Vélodrome. Hier soir, des sifflets, des chants hostiles ont accompagné le match contre Monaco, 1-1, score final.
Europe 1.
À la veille de l'ouverture du grand débat, Emmanuel Macron adresse donc une lettre aux Français. Il y expose sa vision de ces grands échanges à l'échelle nationale. Le chef de l'État parie sur le dialogue afin de sortir de la crise. Jean-Rémy Bodo.
Oui, et dès les premières lignes, le président explique qu'il n'y aura pas de questions interdites, même si à demi-mot, il explique ne pas vouloir revenir sur l'ISF. Pour Emmanuel Macron, ce temps de débat doit être l'occasion d'apporter, je cite, une clarification à notre projet national et européen. Et par la suite, à travers les 4 thèmes de débat que sont la fiscalité, l'État, la transition écologique et la démocratie, le président propose des questions qu'il juge essentielles. En tout, plus d'une trentaine d'interrogations relevées sur les premiers cahiers de doléances. Comment rendre notre fiscalité plus juste? Quelles économies vous semblent prioritaires? Ou encore, quelles propositions concrètes pour accélérer notre transition environnementale? Le président glisse aussi quelques thèmes plus délicats, comme l'immigration ou la laïcité. Il promet un nouveau contrat pour la nation et rappelle que le débat est, je cite, « ni une élection, ni un référendum ». Emmanuel Macron qui appelle dans les dernières lignes à transformer les colères en solutions, une main tendue sans jamais les citer aux gilets jaunes.
Jean-Rémy Bodo et outre l'ISF sur lequel Emmanuel Macron donc ne reviendra pas, la remise en cause du droit d'asile est un autre point non négociable. Le président promet de rendre compte directement des conclusions du débat au plus tard un mois après la fin des échanges, donc aux alentours de mi-avril.
Une lettre déjà beaucoup commentée.
Certains gilets jaunes l'estiment peu concrète et déplorent que l'ISF ne soit pas sur la table des discussions. Réaction politique, la France insoumise dénonce un débat morné par ce tweet d'Éric Coquerel. Le peuple peut débattre, Jupiter tranchera. Nicolas Dupont-Aignan parle de blabla et demande un référendum. Florian Philippot évoque une lettre extrêmement longue et illisible. Côté manifestation, environ 200 gilets jaunes ont mis en place hier soir un barrage filtrant au péage autoroutier de Sesquières près de Toulouse. Ils affirment vouloir lancer, je cite, un blocage économique samedi. 84 000 manifestants dans toute la France. Mobilisation en hausse, mais globalement moins violente. Marine Le Pen estime quant à elle qu'Emmanuel Macron doit avoir, je cite, la sagesse de se tourner à nouveau vers le peuple par une dissolution. La présidente du Rassemblement National l'a clamé hier soir à Paris lors du lancement de la campagne Rassemblement National pour les élections européennes.
Europe 1, il est 5h02.
Rue de Trévise à Paris, les opérations de sécurisation se poursuivent.
Après la très forte explosion samedi due à une fuite de gaz dont l'origine reste pour l'heure inconnue, le bilan s'est alourdi. mardi, hier 4 morts. Après la découverte sous les décombres du corps d'une jeune femme, une douzaine d'immeubles est encore fermée. Les pompiers vérifient les fondations. Ces pompiers qui ont perdu 2 collègues dans l'explosion. Nombreux hommages hier devant la caserne du caporal-chef Simon Cartana et du première classe Nathanaël Josselin. Véronique, vice-présidente de l'association Uniformes en danger, est venue déposer un grand bouquet de fleurs.
Je les ai remerciés pour leur travail, pour leur gentillesse, pour leur... ils donnent leur vie pour la nôtre. Donc oui, c'est très émouvant, c'est très touchant. J'ai moi-même un neveu par alliance qui est pompier de Paris, donc demain ça pourrait être lui, évidemment, oui. Ah bien sûr, on y pense en tant qu'épouse, mère, compagne, sœur de pompier, mais c'est la même chose pour les femmes de militaires, les femmes de gendarmes, les femmes de policiers, etc. Ils partent le matin, on ne sait pas s'ils rentreront le soir. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un petit peu parce que ouais, l'émotion est grande. Ouais. Du coup, des pots de fleurs, c'est pas grand-chose, c'est une marque de sympathie. C'est le moins qu'on puisse faire. C'est une façon de leur dire on vous soutient, on est auprès de vous, on comprend ce que vous vivez au quotidien et les Français vous aiment, tout simplement.
Des propos recueillis par Pierre Herbulot pour Europe 1 et une cagnotte en ligne a été lancée sur le site Le Pot Commun pour aider les familles de ces pompiers décédés. Elle a recueilli pour l'heure près de 164 000 euros. Et puis, coup d'œil de l'actualité à l'étranger, Theresa May prédit une crise catastrophique si jamais le Royaume-Uni venait à quitter l'Europe sans accord. Le Brexit, c'est pour fin mars. Le Parlement britannique doit voter demain un compromis longuement et difficilement négocié avec l'UE, mais l'accord de la Première ministre est très décrié. Alors aujourd'hui, elle va tenter une nouvelle fois de convaincre les députés, plaidoyer de la dernière chance.
Et à l'heure de passer au journal des sports, une question s'impose. Comment Jérôme Lacroix fait-il pour être si dynamique en se levant chaque jour à 2h du mat?
Parce que dans ma tête, j'ai 30 ans.
Si vous le dites. Voici le journal des sports de Jérôme Lacroix. Quoi, vous avez vraiment 30 ans?
Guerre plus.
En revanche, à 2h du matin, il est déjà au travail, Mathieu.
Ah oui, il est déjà au travail. Vous êtes déjà physiquement ici à 2h du matin? Ah oui, d'accord. Oui. Ah, je vous regarde encore sous un jour différent. À la une du journal des sports, Jérôme, le tumulte à Marseille.
Des sifflets, toute la rencontre, des banderoles et des chants hostiles lancés depuis les travées du stade Vélodrome qui appellent à la démission de l'entraîneur et du président. Voilà dans quelle ambiance les footballeurs de l'OM ont évolué face à Monaco hier soir, 20e journée de Ligue 1. Les supporters sont en colère en pleine crise de mauvais résultats. Et un partout hier soir, pas de quoi apaiser le climat. Alors à l'issue de la rencontre, plusieurs joueurs cadres, dont le gardien Steve Mandanda, ont échangé avec des représentants de supporters, échange courtois. Les joueurs s'attendaient à ce contexte tendu. Dimitri Payet, le capitaine, confesse que le groupe a tenté toute la semaine de se protéger.
Mais il va en rester que on s'est fait un petit cocon. Voilà, on s'est mis à l'intérieur et on s'est dit que tous ceux qui étaient là, c'est comme ça, c'est avec ces personnes-là qu'on allait s'en sortir. Et je pense qu'on a montré ce soir qu'on n'était pas mort et qu'on était une équipe soudée.
Des propos recueillis par Jean-François Pérez pour Europe 1. Ce matin, les Marseillais sont 9e du classement à 5 points du podium. Les Monégasques emmenés par leur recrue star, l'Espagnol Fabregas. Premier match est déjà très influent hier soir. Ces Monégasques sont toujours avant-derniers. Également hier, Dijon-Montpellier 1 partout. Victoire 1-0 de Rennes à Nantes. Et victoire 2-1 de Strasbourg à Toulouse. Strasbourg-Toulouse qui, comme tout le monde le sait, est un derby. Le derby de la saucisse. Voilà, c'est ma vanne.
Vous avez une très bonne vanne. Et on parle du tennis avec l'Open d'Australie qui démarre.
Oui, premier grand chelem de la saison à Melbourne.
Très, très bien. Très, très beau silence derrière cette vanne.
Ah oui,
en plus. On va pouvoir mettre une jolie cymbale.
Bah oui, exactement. Bah, là, je vous l'offre sur un plateau. Ouais. Là, c'est le cas
merci
de le dire.
Beaucoup.
Donc,
une belle
c'est le début
sur un beau plateau
de l'Open d'Australie. Premier grand chelem de la saison de tennis à Melbourne. 5 bleus en lice cette nuit. Désillusion pour la numéro 2 française, Kristina Mladenovic, sortie dès le premier tour. 6-2, 6-4 par la Croate Vekic, qui est toutefois mieux classée que la Française Mladenovic, tout de même bien déçue.
Évidemment que quand on rentre en grand chelem sur un premier tour, on a envie de gagner, c'est le plus important, la manière, on s'en fiche un peu. Je pense que dans l'ensemble, il y a eu trop de fautes de ma part, un match très solide de sa part. Voilà, encore un peu insatisfaite de mon pourcentage de première au service.
Et également cette nuit, Caroline Garcia, elle s'est qualifiée en éliminant sa jeune compatriote Jessica Poncher. Côté messieurs, Adrian Manarino plie en 4 manches face au Sud-Africain Anderson. À suivre plus tard dans la journée, Gaël Monfils, mais aussi les entrées en lice de Murray et de Federer. Le Dakar, 6e étape et 3e succès d'étape pour Sébastien Loeb. C'était entre Arequipa et San Juan de Marcona. Et oui, le pilote français, il est 2e au classement général. Mais il a tout de même plus de 37 minutes de retard sur le Qatari Al Attiyah.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
5 skieurs français se sont classés hier dans les 12 premiers du slalom d'Adelboden en Suisse. 5 bleus, dont le jeune et prometteur Clément Noël, 21 ans. Vous en avez déjà parlé dans Debout les copains. Premier podium en Coupe du Monde, 2e, derrière l'intouchable autrichien Marcel
Hirscher.
Il vous plaît ce Marcel
bah oui,
Hirscher.
Bah oui.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Trop modeste pour étaler ses médailles, si ce n'est pas moi qui le dira. Jérôme est depuis samedi dernier vice-champion des Hauts-de-Seine de billard français naturiste. Le soutien de sa femme, de Céline Dacosta et d'Eva Rock, n'y sont pas pour rien.
Ah ouais.
Ah ouais, génial.
J'applaudis moi aussi, dès demain. Bravo Gégé.
Europe 1. Il est 5h08, Mathieu Noël.
Il a honte.
Debout les copains, continuent avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, comme Jeanne Moreau, parfois en partant au boulot le matin, vous vous dites...
Je rêve toujours de m'étirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp.
Beaucoup en rêvent, mais peu le font. Chaque matin, Europe 1 vous présente un homme ou une femme qui l'a fait changer de vie. Aujourd'hui, Flora, elle était vendeuse, elle est devenue sonothérapeute.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains se poursuit sur Europe 1 avec mes complices Eva Rock et Céline Dacosta. Céline, on parle météo, un peu de soleil aujourd'hui?
Oui, un petit peu. Ce matin, un petit quart nord-ouest de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France et puis à la région parisienne. Soleil qui gagnera quasiment toute la moitié ouest cet après-midi. Soleil aussi près de la Méditerranée au prix d'un vent très fort. Partout ailleurs, c'est nuageux, faiblement pluvieux, avec de la neige sur les reliefs et ce risque d'avalanche qui reste très élevé sur les Savoies, un risque de 4 sur 5. Le tout sous des températures encore très douces, puisqu'on aura cet après-midi une moyenne de 7 à 12 degrés. Il en fera 9 à Paris, 14 à 18 près de la Méditerranée.
Ça, c'est déjà pas mal. Eva Rock.
Oui, parce que j'ai été interloquée. Il y a plusieurs articles qui sont parus ces derniers jours sur Netflix et le rapport avec la télé. Alors, on vous a demandé, est-ce que vous regardez encore la télé? Et si oui, quel genre de programme? Alors, Philippe, lui, il pense que Netflix a plutôt incité les chaînes à revoir leurs programmes et à surtout se diversifier. Il est très branché France 5, Arte, LCP et Public Sénat, où Full HD Ready, alors lui, bien au contraire, il pense que toutes ces séries formatées de façon industrielle qu'on peut voir sur les plateformes de vidéo à la demande l'ont fait revenir en fait vers les films et les séries qui diffusent les chaînes de la TNT.
Ça, c'est, oui, c'est un profil un peu particulier.
Mais oui, mais ça existe aussi. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci à vous chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour s'informer, se divertir et aussi, pourquoi pas, changer de vie. Chaque matin, les invités de Fallait Oser, eux, l'ont fait.
Mais quoi ?
Bah, changer de vie. Ce matin, une reconversion originale. Flora est sonothérapeute, elle vit près de Bordeaux et il y a 2 ans et demi, alors qu'elle était vendeuse dans un magasin bio, elle découvre les bols tibétains, une méthode de méditation méconnue et qui fonctionne à merveille sur elle. Tout passe par le son.
Fallait Oser.
Alors le bol tibétain, c'est un bol qui est fait en 7 métaux. Quand on va frapper cet objet, le fait qu'il soit martelé, il va y avoir une note fondamentale qui va s'en détacher. Et cette note-là, elle va envoyer donc une fréquence à notre cerveau, une fréquence équivalente aux ondes alpha. Et les ondes alpha, notre cerveau va les émettre lorsqu'on est en méditation et en relaxation profonde. Et en fait, les bols tibétains, ils vont recréer ce processus.
Conquise par cette méthode de relaxation, Flora décide d'en faire son métier. Elle rencontre d'autres professionnels afin de se former et s'exerce d'abord sur son entourage.
Et puis en avril 2018, elle se sent prête, elle va lâcher son travail et se lance à plein temps dans la sonothérapie. Elle se déplace chez ses clients, organise notamment des séances collectives. Il suffit de s'allonger, d'écouter. Et là, c'est le lâcher prise et le vide intérieur.
Les gens s'allongent et cela permet vraiment de créer un moment propice à ce que la personne puisse relâcher les tensions, que ce soit physique, mentale, émotionnelle. Donc ça va permettre de réguler l'organisme. C'est vraiment pas contraignant par rapport aux gens qui travaillent, qui ont envie juste de se reposer et de se laisser aller. Mais en fait, ils travaillent quand même, parce qu'ils vont quand même avoir à faire face à leurs émotions qui vont remonter durant la séance. Des petites tensions physiques qui vont se lancer. Les vibrations font remonter tout ça.
Flora est heureuse aujourd'hui, elle vit donc de sa passion et même si elle travaille dans la relaxation, ses journées sont loin d'être reposantes, les séances, les prises de rendez-vous, la communication, elle fait tout toute seule. Voici donc son site internet si vous habitez près de Bordeaux, flomassagesonore.fr, flo, F-L-O-W.
Et puis si vous aussi vous avez changé de métier, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info et le rire s'entendent comme larron en foire. Un peu comme Céline et Eva samedi soir sur le dance floor du Dirty Coconut où elle n'était pas très habillée, si vous voyez ce que je veux dire.
Oh. Mais c'est vrai, oh là là, c'était scandaleux.
À suivre, quelle série conseiller à vos collègues? Quel événement culturel faut-il cocher dans son agenda cette semaine? Faites le plein de culture avec nos experts. Ça sera lundi les bons tuyaux, au programme notamment les 350 ans de l'Opéra de Paris et notre verdict sur une nouvelle série Netflix intitulée Sex Education. Mais d'abord Eva, ce sera la consultation du docteur Ichou.
Ah tiens, ça aurait fait un bon titre de film X.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ce sera la consultation du docteur Ichou. Au programme ce matin, cette question: prescrit-on trop de médicaments contre les aigreurs d'estomac? Moins film de cul là. On y vient, mais d'abord, quel plus beau réveil que réveil en musique. Voici Lady Gaga et Bradley Cooper. Shallow sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Une lettre aux Français pour, je cite, transformer les colères en solutions et bâtir un nouveau contrat pour la nation. Emmanuel Macron écrit au pays aujourd'hui afin de lancer le grand débat national qui démarre demain. Certains gilets jaunes estiment cette lettre peu concrète et déplorent que l'ISF ne soit pas sur la table des discussions. Côté politique, Éric Coquerel de la France Insoumise dénonce un débat mort-né. Le peuple peut débattre, Jupiter tranchera, écrit-il sur Twitter. Nicolas Dupont-Aignan parle de blabla. Florian Philippot évoque une lettre extrêmement longue et illisible. Enfin, rue de Trévise à Paris, les opérations de sécurisation se poursuivent après la très forte explosion samedi due à une fuite de gaz. Le bilan s'est alourdi hier à 4 morts. De nombreux hommages ont été rendus devant la caserne de Simon Cartanaz et Nathanaël Josselin, les deux policiers décédés au cours de l'intervention.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce lundi 14 janvier. Et tout de suite, on passe au pronostic hippique. Un homme et beaucoup de chevaux.
Ah tiens, ça aurait fait un bon titre de film X.
Oui, un peu de sérieux. Voici Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 108 Tell Me a Story. Lauréat en début de meeting d'hiver sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi, ne tenait surtout pas compte de son dernier échec à Vincennes. Ce jour-là, sur 2100 mètres, une distance bien trop courte pour ses réelles aptitudes, il a constamment été pris de vitesse. Réservé depuis en vue de ce quintet, ce trotteur suédois, qui n'a pas encore les gains en rapport avec ses moyens, devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 8, Tell Me a Story.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et c'est le moment toujours un peu magique pour nos fans où nous leur ouvrons les portes de notre joyeuse colocation et donc partant de notre intimité. L'occasion pour vous, chers auditeurs, de nous découvrir sans phare ni artifice au réveil alors que nous installons tranquillement la table du petit déjeuner. Ou, encore ivres de leur nuit câline, Céline Dacosta et Jérôme Lacroix roucoulent de bonheur. Même s'ils sont ce matin un peu remontés. Ils sont un peu remontés contre la marque Durex, qui visiblement n'est plus aussi fiable que jadis.
Trois crevaisons hier.
Et alors qu'Eva Rock trempe une épaisse tranche de soca dans sa ricorée avant de la tartiner généreusement dans Choyade, Gégé Lacroix décide d'amuser la galerie en nous dévaluant sa nouvelle acquisition du week-end. Il retire son peignoir pour nous dévoiler son dernier slip fantasy. Le slip, le rock'n'slip. Plus qu'un slip, une œuvre d'art. Hommage aux grandes heures du rock'n'roll, 20% cuir, 80% élastane. Le cuir de ce slip collector est un cuir de vachette tanné à l'huile de yak, brodé d'une tête de mort en fil de fer barbelé.
De fèves Johnny Hallyday.
Bref, un slip idéal pour... Alors Eva, conquise.
Ça donne envie, hein.
Hélas, pas le temps d'en profiter de ce rock'n'slip. On passe au pressing. Pas le slip, hein, nous. Le pressing, notre revue de presse en mode zapping. Ce matin, un sujet domine. Alors là, le sérieux revient. Le grand débat et la parution de la lettre d'Emmanuel Macron. Ma lettre aux Français annonce simplement la dépêche du midi. C'est l'écrit de rattrapage pour Libération. Le Figaro reprend un verbatim du président. Transformer les colères en solutions. Place au débat, souligne Lacroix. Pas Jérôme, le journal. Mais vous, mes infatigables farfouilleurs de l'info, qu'avez-vous déniché dans les journaux ce matin, Eva Rock?
Quel est le point commun d'après vous entre les mots colère, mépris, infox, électronisme ou urbanisation? Non, ne riez pas, Mathieu.
D'accord. Non, pardon, mais ça me fait penser à une réplique de la Cité de la Peur.
Ah oui, oui. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Oui. Figurez-vous que ce sont les mots les plus employés en 2018 dans les médias, selon Jeanne Bordeaux, qui est présidente de l'Institut de la qualité de l'expression. Depuis 11 ans, la linguiste, en fait, épluche la presse afin de cerner les mots les plus présents et les plus révélateurs, comme le racontent les Échos ce matin. Alors, elle précise que le mot colère, très usité cette année, était récurrent dans les médias depuis 10 ans déjà, alors que d'autres mots, eux, ont réellement surgi ces derniers mois. C'est le cas d'infox ou électronisme. Alors évidemment, d'autres mots se sont installés de manière obsessionnelle. Fracture, on parle de fracture territoriale, fracture sociale, fracture numérique, ou les verbes ubérisés et digitalisés. La linguiste précise d'ailleurs que de nombreux termes et expressions sont issus de l'univers de la high-tech. Le monde digital invente aussi un nouveau champ sémantique. Le philosophe Gilles Lipovetsky, qui intervient aussi dans cet article, affirme par ailleurs qu'un fil rouge se dégage de l'ensemble de ces mots qui ont été repérés. Le sentiment d'une profonde insécurité sécurité des individus. Et quant aux réseaux sociaux, à en croire la sociologue Pascale Veil, eh bien eux, ils excluent les mots nuancés. Nous sommes dans l'effervescence d'informations, dit-elle. Résultat, eh bien jamais les mots mépris, haine, jacquerie à l'égard des élites notamment n'ont été autant employés que cette année. Et Gilles Lipovetsky de conclure, pour retrouver une telle violence verbale, il faut remonter à la presse des années 1930, à des titres comme Gringoire, l'atmosphère est devenue suffocante. Alors il faut préciser que cette étude sur les mots, réalisée par Jeanne Bordeaux, elle est destinée normalement aux annonceurs publicitaires, histoire de mieux cibler les messages dans les semaines à venir au cours des campagnes pour les annonceurs. Ça risque d'être un peu compliqué avec les mots de 2018.
Ah oui, c'est des campagnes un peu particulières.
Voilà, c'est-à-dire dans les échos ce matin.
Ah oui, Céline Dacosta, qu'avez-vous choisi pour nous dans la presse ?
Dans les pages culture du Parisien, on parle musique et où on apprend qu'un quart des meilleures ventes sont des premiers albums, que 19 des plus grosses ventes de l'année sont des artistes français qui chantent en français. Une nouvelle scène française qui est en train de s'installer, portée par le streaming, qui devrait représenter la moitié des ventes de l'an dernier. Alors le rap est le grand vainqueur de ce classement. Maître Gims et son frère Dadju, je ne sais même pas que c'était son frère. En deuxième et troisième place, Aurel San, Damso, Soprano et Didier Depréto arrivent juste derrière. Et puis on a vu aussi émerger de nouveaux artistes comme Angèle, qu'on aime beaucoup, hein, la jeune belge, ou attention de ne pas écorcher son nom, Aya Nakamura, portée par son tube Dja Dja, dont je ne comprends toujours pas les paroles. Et puis on n'a pas vu venir non plus Trois Cafés Gourmands, un jeune groupe coréen qui cartonne avec ça. Un tube.
Un petit coup de gnoll.
Ouais, ouais, un tube qui a d'abord fait un carton sur internet, 70 millions de vues, c'est quand même assez incroyable. Et puis un succès qui s'est confirmé 3 mois plus tard avec 190 000 exemplaires de leur premier album, Un air de rien, qui s'est vendu. Un rêve qui se réalise pour les trois amis. Mylène, c'est la chanteuse, elle est professionnelle, mais les deux autres pas du tout. Hein. Jérémy travaille dans un bureau d'études, Sébastien est prof de maths. Du passé bientôt tout ça, puisqu'ils ont signé chez Play 2, le label de Maître Gims et Zaz, avec une tournée qui démarre le 1er mars. C'est quand même assez dingue. On a découvert Marwa Loud, d'une chanteuse R&B, et puis Kimber Rose de 28 ans, une voix soul profonde.
On l'a découvert.
On ne pouvait pas ne pas la passer.
Mon coup de cœur 2018.
Ah ouais. Le label baroque vient d'être attribué à Kimber Rose, et à mon avis, ça devrait booster encore plus sa carrière.
Mais oui.
Il y aura un avant, un après, probablement.
Et aller la voir en concert, surtout.
Oui, elle a fait deux cigales plein. Enfin bon, oui, elle n'arrête pas de faire des scènes complètes. Ouais. Et elle commence à trouver son public. On nous dit aussi que le succès spectaculaire de cette fin d'année, c'est L'Homme Pâle, un rappeur, un deuxième disque.
L'Homme Pâle, exceptionnel. Oui.
Janine, on l'a pas calé, qui sort le 7 décembre, qui est sorti le 7 décembre, son deuxième titre est un carton. Deux zéniths de février déjà complets. On lui prenait un beau destin, à celui qui faisait partie de la bande de Nekfeu. Et puis, on nous dit aussi que les anciens résistent quand même, puisque le premier, on l'a pas dit, mais c'est Johnny, ce classement des meilleures ventes. Bon, il est hors concours, hein, Mon Pays, c'est l'amour, tête des ventes. Dans le classement, on retrouve aussi Mylène Farmer, Indochine ou encore Patrick Bruel. Alors que le retour de Paul Naref qu'on avait annoncé. C'est pas un carton du tout, ça fait plutôt un flop. Alors, j'ai les chiffres si vous les voulez, hein, que je n'ai pas noté.
Vous nous le donnerez tout à l'heure, mais en tout cas, c'est pas très.
47 371 ventes.
Ah oui,
donc c'est pas terrible. Ah et oui, puis, pareil pour Vanessa Paradis, pas terrible non plus, à lire aujourd'hui dans Le Parisien.
Ça marche. Merci beaucoup, Céline Dacosta. Jérôme Lacroix.
Oui, moi je vous parle, en plus je m'adresse un petit peu à vous. Petite hypochondriaque, on va dire gentiment, vous parle d'un mal qui concerne entre 150 000 et 300 000 personnes en France, hein, tout de même. Alors les symptômes, ils sont variés. Fatigue chronique depuis plusieurs mois, que des heures et des heures de sommeil ne parviennent pas à soigner, épuisement après un effort, douleur dans les articulations, hypotension, voire ça peut aller jusqu'à des malaises. Ce sont les symptômes de ce qu'on appelle la fatigue chronique. Alors, des symptômes évident, mais malgré cela, comme nous le raconte ce matin le Figaro dans ses pages santé, c'est un phénomène qui reste très très mal connu, notamment en France, mal connu par les soignants eux-mêmes, par les médecins. C'est ce qu'a révélé une publication médicale la semaine dernière, une étude américaine, si bien que 42% des personnes souffrantes passées par les urgences affirment que leur plainte a été considérée comme psychosomatique. Et cette crainte de ne pas être pris au sérieux, eh bien, ça fait qu'un certain nombre de personnes souffrantes, 41%, ne se sont même pas rendues à l'hôpital. Alors, loin de l'idée du Figaro d'accabler le corps médical, ces patients ont de quoi dérouter les médecins, écrit le journal. Les signes cliniques sont pourtant sévères, hein, très forte douleur musculaire, tachycardie, impossible même pour certains de tenir debout. Mais lorsque des examens sont pratiqués,
rien de spécial.
Voit à rien. Les docteurs ne voient rien, aucune anomalie biologique, aucune anomalie radiologique à ce mal, dont on n'identifie pas non plus pour l'heure l'origine. Donc des malades
présumés imaginaires qui vivent des heures compliquées sans remède. On les oriente alors vers la psychiatrie, mais c'est pas vraiment efficace. Et puis, quel médicament prescrire pour soulager?
Bah, vraiment, des vitamines, vous direz, docteur Ichou.
Alors, le Figaro note tout de même que ce syndrome pourrait être le résultat de plusieurs facteurs cumulés. Alors, par exemple, une infection plus une source de stress et puis un terrain favorable aussi pour la fatigue. Et puis, la piste pour l'heure la plus concrète vient du fait qu'on a constaté chez 30% des patients un stress post-traumatique au cours de l'enfance. Un papier très intéressant à lire dans le Figaro.
Il est tout blanc, Mathieu.
Oui, oui, ça va bien, Jérôme. Laissez le docteur Ichou me faire peur. Si vous aussi vous vous y mettez, on ne s'en sort plus. Merci quand même, Jérôme. Merci à tous, Céline, Eva, les amis. Le pressing referme ses portes. Et vous savez quoi? Une telle entente, une telle osmose, ce n'est plus une équipe. C'est plus une colocation.
C'est une partouze.
Non, j'allais dire c'est une famille. Mais vous salissez tout.
Europe 1. Il est 5h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continuez avec la météo et le journal d'Hélène Zélani à suivre. Féerique réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, quel temps nous offrez-vous pour ce 14 janvier? Une journée encore perturbée, c'était pas un très beau cadeau.
Non, c'est... je suis désolée. Avec de faibles averses ce matin quasiment partout, un petit peu de neige sur les reliefs. Attention d'ailleurs au risque d'avalanche qui reste fort sur les Savoies. Là où le temps est plus calme, avec même des éclaircies entre la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne et le nord de la région centre pour ce matin. Et puis également près de la Méditerranée et sur l'est de la Corse, avec un vent toujours très fort, jusqu'à 100 km à l'heure en rafale pour le Mistral et la Tramontane. Les températures, elles baissent un peu mais restent douces pour la saison. Ce matin, la moyenne va de 3 à 10 degrés. Il en fait 5 à Nice, 8 à Lille, 9 à Paris, Lyon, Toulouse, 10 à Bordeaux et Brest, jusqu'à 13 degrés déjà à Perpignan.
Et cet après-midi, c'est bon.
Retour de quelques larges éclaircies sur une moitié ouest, ciel mitigé avec éclaircies, nuages, encore un petit peu de pluie pour les autres. Toujours de la neige sur les reliefs, grand soleil près de la Méditerranée, puis ça va rester en revanche bien couvert et pluvieux, des Landes aux Pyrénées-Orientales. Pour les températures, 7 degrés à Lille, 8 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, 10 à Tours et La Rochelle, 12 à Agen, 14 à Nîmes. Ça grimpera même jusqu'à 18 degrés du côté de Bastia.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'info rigoureuse avec supplément joie de vivre.
Hell. It's for the way.
À suivre, on pourrait écouter Nat King Cole. Une fois on fera ça d'ailleurs, on écoutera Nat King Cole pendant 2 heures. Mais pour l'heure, prenons-nous-en à nos rendez-vous adorés, à commencer par le point santé du docteur Ichou. Marcel qui ce matin se demandera si les médecins ne prescrivent pas un peu trop de médicaments contre les aigreurs d'estomac. Sans oublier évidemment lundi les bons tuyaux, le meilleur de l'actualité culturelle sur un plateau. Et ce matin notre expert lyrique Thierry Geffrotin fêtera les 350 ans de l'Opéra de Paris.
I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and
witty. Vous avez hâte et je vous comprends, mais il faudra pas sauter encore un peu car là c'est le journal.
Merci d'avoir choisi Europe 1 en ce lundi 14 janvier pour vous réveiller. Il est 5h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce lundi 14 janvier 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
La lettre d'Emmanuel Macron aux Français dévoilée hier soir, ce n'est ni une élection ni un référendum, précise le président qui propose une trentaine de questions. Le grand débat s'ouvre demain, les militants de la majorité ont bien l'intention de jouer un rôle actif, mais aussi les députés. Et puis 4 morts dont 2 pompiers dans l'explosion de la rue de Trévise à Paris. Les opérations de sécurisation se poursuivent, de nombreux habitants ne peuvent plus rentrer chez eux.
Europe 1.
D'où venait précisément la fuite de gaz? Toujours des zones d'ombre après la violente explosion de samedi rue de Trévise dans le centre de Paris. 4 personnes sont mortes dont 2 pompiers. Il y a aussi une cinquantaine de blessés dont 9 graves. Pour les riverains, impossible de rentrer. 12 immeubles restent fermés. Il faut vérifier si les fondations ont bougé dans la déflagration. Des habitants qui en attendant s'organisent comme ils peuvent, comme l'a constaté Victor Dolande.
Pauline fait rouler sa valise. Dedans, quelques affaires qu'elle a pu récupérer chez elle. Depuis la catastrophe, elle dort à l'hôtel, le gaz et l'électricité ne sont toujours pas rétablis dans son immeuble et le traumatisme est encore trop fort.
Quand je suis re-rentrée chez moi, j'ai pleuré tout de suite parce que j'ai revécu l'explosion en fait, qui était devant mes yeux. Mais dès que je fais autre chose, ça va.
Donc peut-être que ça vous aidera justement demain de
reprendre le travail. Complètement. Puis je pense que ça me changera les idées.
Reprendre une vie normale, difficile quand on ne peut pas rentrer chez soi. Heureusement, de nombreux habitants du quartier comme Arnaud ont apporté des habits à la mairie du 9e arrondissement de Paris.
On a apporté une valise pleine de vêtements. Ça nous a paru être la moindre des choses d'apporter des affaires.
Une solidarité aussi efficace que rapide. Christian est bénévole au Lions Club. il n'a pas hésité une seconde à puiser dans le fonds de secours de son association.
Ça nous permettra d'agir rapidement, notamment par exemple pour les enfants, pour éventuellement acheter des cartables tout simplement pour qu'ils puissent aller à l'école, pour ne pas couper le rythme de leur vie.
Autant de petits gestes indispensables qui aideront les habitants sinistrés à tourner la page.
Victor Dolande, les pompiers de Paris ont lancé une cagnotte pour soutenir les familles des deux sapeurs-pompiers tués dans l'explosion, Simon Cartanaz et Nathanaël Josselin. Elle a déjà rassemblé plus de 163 000 euros. Europe 1, il est 5h31.
Comme promis, Emmanuel Macron publie sa lettre aux Français.
Oui, un texte dévoilé hier soir dans lequel le président fixe le cadre du grand débat. Il soumet 34 questions regroupées sous 4 thèmes. Pouvoir d'achat, fiscalité, démocratie et environnement. Pour, écrit-il, transformer les colères en solutions et promet de tirer toutes les conclusions de cette consultation. Édouard Philippe va en préciser les détails d'organisation dans la journée. De son côté, le groupe parlementaire de La République En Marche se retrouve dans l'après-midi en séminaire de rentrée. Et évidemment, à l'ordre du jour, le grand débat qui s'ouvre demain, Virginie Riva.
Hors de question pour les députés de la majorité de ne pas jouer de rôle dans le grand débat national. Ils se sont donc auto-fixés deux missions. D'abord, être des ambassadeurs du débat sur le terrain, en clair susciter des ateliers sur des thèmes particuliers, mais aussi y contribuer. Ils veulent lancer un grand état des lieux de ce qui a imprimé ou pas imprimé chez les Français pour mesurer l'impact concret des mesures gouvernementales sur la vie des gens. Mais ils en sont conscients, il ne faut pas donner l'impression de s'accaparer ce débat. La crainte absolue, explique un cadre de la majorité, c'est un débat dans une salle où sur l'estrade le préfet échange avec le député. Pour l'instant, les députés ne savent pas bien quelle forme prendra ensuite leur restitution du débat. Il y aura des préconisations en matière d'évolution des politiques publiques, nous explique un député. Une chose est sûre, ils disent déjà vouloir une vraie prise en compte des remontées. Certains commencent à parler déjà d'un acte 2 du quinquennat et militent pour un changement de cap de la politique du gouvernement.
Virginie Riva, première réaction très critique à cette lettre d'Emmanuel Macron pour le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. On ne convoque pas tous les Français à un débat en leur interdisant de parler par exemple de l'ISF. Le député insoumis Éric Coquerel résume, le peuple peut débattre, Jupiter tranchera. Pour Laurent Wauquiez, le débat risque d'être un artifice grossier et du côté du Rassemblement National, on dénonce une manœuvre de l'exécutif pour gagner du temps. Justement, Marine Le Pen présentait hier sa liste pour les européennes devant 2000 militants rassemblés à Paris. Objectif, selon elle, battre Emmanuel Macron empêtré dans la crise des Gilets jaunes. En tête de liste, Jordan Bardella, 23 ans, fidèle lieutenant de la présidente du Rassemblement National.
Fin de cavale pour l'ex-activiste d'extrême gauche italien Cesare Battisti.
Oui, condamné à la perpétuité pour 4 meurtres dans les années 70. Il a été livré aux autorités italiennes par la Bolivie et doit arriver à la mi-journée à Rome où il sera emprisonné. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, compte réclamer rapidement à la France d'autres ex-militants d'extrême gauche condamnés pour meurtre. Battisti avait, rappelons-le, passé 15 ans en France. Et puis, aux États-Unis, le remake d'Intouchables démarre très bien. Un peu plus de 7 ans après, le film qui avait rassemblé 20 millions de spectateurs dans les salles en France, The Upside, sorti vendredi, est en tête du box-office, malgré des critiques mitigées. Dans le rôle qui était tenu par François Cluzet, Bryan Cranston, qu'on a vu dans une série comme Breaking Bad. Et puis dans le rôle d'Omar Sy, l'humoriste Kevin Hart. Pour l'instant, pas de date pour une sortie française.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani. Et Hélène, affûtée comme vous êtes, je pense que vous allez rester avec nous pour le journal des sports de l'ami Jérôme Lacroix, plus qu'un journaliste, un athlète qui va tout donner.
Comme cette nuit.
Oui, vous ne soyez pas prétentieux non plus, Jérôme, mais c'est vrai que c'est l'occasion de saluer Madame Lacroix, on l'embrasse. Allez, GG, on passe au journal des sports. Tout de suite, on file à Melbourne.
Le tennis, l'Open d'Australie, premier grand chelem de l'année, c'est à suivre sur Europe 1. Sur place, Christophe Taureau. Bonjour, Christophe.
Bonjour, bonjour à tous.
Premier tour, 5 tricolores sur les cours des Français pour lesquels l'année dernière a été laborieuse, on va dire. Alors racontez-nous, Christophe, comment s'en sortent-ils pour ce premier grand rendez-vous de 2019?
On va dire que ça démarre doucement avec la défaite en 2-7 de Christine. Non, on ne rit pas. Avec la défaite en 2-7 de Kristina Mladenovic face à la Croate Dona Vekic, 29e mondiale, pardon. Et puis celle d'Adrian Manarino en 4-7. Manarino qui n'a pas eu de chance au tirage au sort, hein, puisqu'il était opposé au Sud-Africain Kevin Anderson, 5e mondial et qui est l'un des outsiders du tournoi. On était sûr, en revanche, d'avoir une victoire française, puisque Caroline Garcia affrontait sa compatriote Jessica Ponchet. Je vous entends hein, rire. Hein. Jessica Ponchet, qui est 250e mondiale et issue des qualifications. Garcia s'est imposée 6-2, 6-3 au terme d'un match assez moyen. Elle affrontera mercredi Zoé Ives. C'est une Australienne classée 225e mondiale. Puis le dernier Français en lice aujourd'hui à Melbourne, c'est Gaël Monfils. Il va jouer un tout petit peu plus tard dans l'après-midi face au Bosnien Damir Dzumur. C'est un joueur qui est classé à la 47e place mondiale. finale. Et c'est aussi un joueur que mon fils n'a encore jamais affronté.
On suivra ça avec vous, Christophe Thorand, direct de Melbourne. Merci également cette nuit. Qualification de Raphaël Nadal après 4 mois d'absence, de Maria Sharapova. Très facilement, elle a gagné 6-0, 6-0. Puis un peu plus tard dans la journée, nous aurons Andy Murray qui a annoncé la semaine dernière que cet Open d'Australie pourrait être son dernier tournoi. Il se remet mal de lourds problèmes physiques. Pour Federer, a priori, lui, son physique tient toujours. 37 ans, il affrontera l'Ouzbek Istomin.
Le foot et du bruit au Vélodrome.
Série de mauvais résultats et les supporters de l'OM qui ont fait entendre leur mécontentement à leurs joueurs hier soir. Réception de Monaco, clôture de la 20e journée de Ligue 1, un partout, score final. Marseille 9e ce matin à 5 points du podium, Monaco toujours avant-dernier.
Un rendez-vous handball aujourd'hui.
Oui, le troisième match des Bleus au Mondial. En Allemagne, ils vont défier la Corée unifiée après deux succès inauguraux face aux Brésiliens et aux Serbes. Les tricolores qui ont vu débarquer avec joie ce week-end leur star, leur totem, Nicolas Karabatic, blessé à un pied il y a plusieurs semaines. Il s'est rétabli remarquablement vite. Il est là, moralement, ça fait du bien. Il ne joue pas encore. Il doit d'abord tester son physique avant d'entrer en match.
Le premier objectif, c'est de renouer contact avec l'équipe, de me réentraîner avec eux. De voir si déjà à ce niveau-là je peux les aider, si à l'entraînement ça va pas bien, que je suis pas au niveau, que je suis trop à la traîne, ça sert à rien de rentrer et de prendre la place d'un de mes coéquipiers.
Propos recueilli par Christophe Lamarre. France-Corée ce soir 20h30 et demain choc contre l'Allemagne.
On termine, mon cher Jérôme, avec des personnalités du jour ce matin.
Ces dames de l'escrime, je les ai choisies. Bravo aux fleurettistes de l'équipe de France qui ont encore gagné hier une manche de Coupe du Monde. C'était en Pologne. Et voilà, deuxième succès en deux manches de Coupe du Monde cette saison pour les Françaises.
Bravo à elles. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, un journaliste qui, on le sait, aime beaucoup sa collègue Céline Dacosta. Mais je pose la question ce matin, l'aimera-t-il encore lorsque nous aurons diffusé l'extrait off de vendredi où Céline révèle cette bonne blague qu'elle adore faire durant les concerts de Patrick Bruel ? Blague potage s'il en est. Avant la réponse tout à l'heure, un indice. Où es-tu ? Quelle blague cette chanson inspire-t-elle donc à Céline ? Réponse un peu plus tard.
Oh là là.
Non, vous n'avez pas la mèche. Il est 5h38, Mathieu Noël.
Je fais ce que je veux. Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos, de bonne humeur et de bons conseils. À suivre, notre page santé avec ce médecin qui, contrairement à beaucoup de charlatans, ne vous promet pas monts et merveilles, mais simplement...
L'amour, la performance, le Disneyland de la béatitude.
Le docteur Ichou arrive et ce matin, dans un sublime et méritoire mea culpa, Marcel se demandera si les médecins n'ont pas tendance à prescrire trop de médicaments contre les aigreurs d'estomac. Et puis, que vous aimez la culture ou que vous aimiez simplement montrer que vous en avez, lundi, les bons tuyaux est fait pour vous. On parlera notamment aujourd'hui des 350 ans de l'Opéra de Paris et on fêtera aussi le retour du Salon de l'innovation de Las Vegas de notre envoyé spécial Grégoire Martinez, dont on rappelle, Céline, la spécificité.
Ah, il tient pas du tout l'alcool.
Aussi, non, il est aussi expert high-tech. Il nous parlera ce matin des conséquences énormes du shutdown des États-Unis en matière de sécurité informatique.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout le copain, l'heure, ma chère Céline Dacosta, d'un point sur la météo. Encore beaucoup de vent près de la Méditerranée, me dit.
Oui, c'est vrai, et ça dure depuis le 5 janvier. Tramontane et Mistral ont dépassé tous les jours les 100 km à l'heure. Ça devrait faiblir un petit peu demain mardi. Un vent glacial, mais la conséquence positive, c'est que l'ensoleillement est particulièrement important depuis le 1er janvier sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Et ça va continuer évidemment aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas pour les autres, avec un ciel encore nuageux, faiblement pluvieux quasiment partout. On a de la neige sur les reliefs et puis un risque d'avalanche de 4 sur 5 sur les Savoies. On aura quand même un petit peu de soleil ce matin sur le nord-ouest et sur la moitié ouest pour cet après-midi.
Merci Céline. Eva, vous êtes inquiète. Netflix va-t-il tuer la télévision ?
C'est la question que nous vous posons depuis ce matin, 5h du matin. Et est-ce que vous continuez à regarder la télé ? Pour quel genre de programme ? Eh bien, Carlisa nous dit, Netflix n'a pas tué mais a mis en lumière le manque de créativité et de nouveautés à la télé. On n'a pas envie de regarder la saison 45 de The Voice Koh-Lanta ou encore Le Meilleur Pâtissier et autres émissions. À force, on adhère plus.
Regardez The Voice quand même. Hein.
Oui, regardez The Voice quand même avec notre ami Gosse, évidemment. Vous continuez à réagir.
Vous filtrez dans les messages, vous recevez, vous filtrez, vous changez,
non,
vous remplacez
honnête,
The Voice par une autre émission. Oui, vous êtes trop honnête, Eva. Et ça, je vais vous dire, votre honnêteté vous perdra.
D'accord, c'est sur Twitter et vous mettez le hashtag Europe 1 pour que je puisse vous lire. Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
5h42 lors de notre page santé avec le docteur Ichou. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, on parle de médicaments qu'un Français sur quatre s'est déjà vu prescrire. Ce sont les médicaments contre les aigreurs d'estomac. Ils sont réservés à des usages très précis, mais ils seraient surconsommés en France selon l'Agence de sécurité du médicament. Alors déjà, quel est le principe de ces médicaments, Marcel Ichou ?
Il y a deux grandes catégories de médicaments contre l'acidité. Des médicaments qui neutralisent l'acidité, qui font une sorte de tampon dans l'estomac. Et puis des médicaments qui vont, en amont, diminuer la sécrétion d'acide. Vous voyez le principe. Donc l'acide est là, on tamponne, l'acide n'est pas encore là et on empêche d'arriver.
Préventif.
Préventif.
Alors, dites-moi. Pourquoi en abuse-t-on ?
Alors, on en abuse parce qu'on les prescrit dans des indications qui sont normalement très restreintes, que sont le reflux gastro-œsophagéen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est remontée acide, qui se manifeste parfois par des toux d'ailleurs, et on le prescrit aussi évidemment dans les ulcères de l'estomac et du duodénum, et on les prescrit enfin chez des profils de malades particuliers qui ont une sensibilité gastrique et à qui on va donner des médicaments qui potentiellement peuvent apporter des troubles, donc on les prescrit en préventif. Alors on en abuse pourquoi ? Parce que les patients les utilisent d'eux-mêmes assez facilement. Ils traitent leurs petites aigreurs avec ça, c'est un recours facile, c'est des médicaments faciles à utiliser. Que les médecins en prescrivent trop. Et puis dernier point, parce que souvent on ne va pas derrière le symptôme de l'acidité pour aller chercher la cause, c'est-à-dire faire une fibroscopie, ce qui va vous mettre déjà dans un état d'angoisse à l'idée de comment faire. Et puis d'aller chercher une petite bactérie au fond de l'estomac qui s'appelle Helicobacter pylori et qui est le lit, la source de tas d'embêtements dont je ne vous parlerai pas ici.
Oh non, n'en parlez pas parce que avec le nom pylori, comme cloué au pylori, me fait peur et me donne des frissons. Merci docteur Ishi, on se retrouve demain. Bonne journée à vous.
Europe 1. Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et de bonne humeur en compagnie d'Eva Roque et Céline Dacosta, qui a cette particularité qu'elle réfléchit souvent à haute voix.
Ça me plairait, moi, fleuriste. Moi, après, j'ai pas la main verte.
À suivre. Un numéro de Lundi les bons tuyaux où il sera question d'une série Netflix sur le sexe, des nouveautés high-tech, mais surtout, nous fêterons les 350 ans de l'Opéra de Paris. La probabilité que Thierry Géfrotin ne puisse pas s'empêcher de chanter est estimée à 9 sur 10.
Merde, merde.
Comme vous dites, Céline. Non. En attendant, je vous propose d'écouter un peu de musique.
I'm singing in the rain.
Non, Thierry, non, un chanteur professionnel, Patrick Fiori. Non, je plaisante.
Il est 5h48, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Une lettre aux Français pour, je cite, « transformer les colères en solutions et bâtir un nouveau contrat pour la nation ». Emmanuel Macron écrit au pays aujourd'hui afin de lancer le grand débat national qui démarre demain. Rue de Trévise à Paris, les opérations de sécurisation se poursuivent après la très forte explosion samedi due à une fuite de gaz. Le bilan s'est alourdi hier à 4 morts. Ouverture aujourd'hui à Paris toujours du procès du viol du 36 quai des Orfèvres. Deux policiers de la BRI accusés de viol en réunion sur une touriste canadienne sont jugés aux assises. Le procès doit durer 3 semaines. Enfin, plaidoyer de la dernière chance aujourd'hui pour Theresa May. La première ministre britannique va une nouvelle fois tenter de convaincre les députés que l'accord sur le Brexit qu'elle défend est le bon. Le vote des parlementaires doit avoir lieu demain.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 14 janvier 2019, l'heure de prendre la direction de l'hippodrome, préalablement muni d'un carnet de chèques et surtout d'un petit carnet Rodia dans lequel vous n'aurez pas manqué de noter religieusement les préférés de José Coves. Bonjour José.
Bonjour, merci. Oui, bien, il y a un nom partant dans cette première course à Vincennes, le 3 Brack Turgot. En revanche, le 18 Melby Drake, si son driver ne convoque. Oh, je reprends tout, les enfants. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais oui, c'est le matin. Donc, le 3 Brack Turgot est nom partant parmi les 17 trotteurs au départ de la première course, mes 5 préférés. D'abord, le numéro 18 Melby Drake. Si son driver ne confond pas vitesse et précipitation, il visera la gagne. Le numéro 11, Calo Renardière, est capable, dans un bon jour, de mettre tout le monde d'accord. Le 8, Tell Me Story, vient de prouver qu'il avait la tête d'un futur gagnant, sur ce qu'il a fait de mieux. Classique au fort. Le 16 est une priorité. Quant au 7, champion doré, il est irréprochable. En cas de défaillance de mes favoris, le 14, Carioca de Loup, le cheval surprise par excellence. Le 13, Canula, avec un Franck Nivard, tout est possible. Et enfin, le 5, Ragazzo da Sopra. Ici, il possède une très bonne chance car son palmarès en Suède est très bon. Mon ticket pour cette première course vers 13h47. D'abord, le 18, le 11, le 8, le 16 et le 7. Et l'on ajoute le 14, le 13 et le 5.
Si j'ai bien compris, José, le driver du 18, Melby Drake, se prend souvent pour un pilote de Formule 1.
Oui, 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 le Suédois Robert Berg a tendance à driver pied au plancher. Or, sur un parcours aussi éprouvant que les 2700 mètres à Vincennes, on ne peut pas être à fond du départ à l'arrivée. Mathieu, si Robert nous écoute, il faut qu'on lui dise qu'il mette à tout prix la pédale douce.
Mais c'est ce que je lui dis tout le temps, mais il ne m'écoute jamais, Robert. On l'embrasse. Merci, José Coves.
Il est 5h50. Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. et baroque pour les écrans, Thierry Geffrotin pour l'opéra et pour les nouvelles technologies, il est de retour. Mais dans quel état, me direz-vous, du CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas, dont il connaît chaque allée et surtout chaque buvette absolument par cœur? Vendredi, point d'orgue d'une semaine haute en couleurs et en liaison foireuse.
Exactement, mais sous un nouveau angle.
Grégoire Martinez tentait de nous vendre hilar une machine à mojito à 5h45 du matin. J'espère que Grégoire sera un peu plus inspiré aujourd'hui, mais d'abord, honneur à l'opéra. Et plus précisément, l'opéra de Paris qui fête ses 350 ans. Thierry Geffrotin, j'ai jamais répondu que j'ai choisi cette illustration musicale. Thierry, vous nous emmenez donc à l'opéra de Paris, le vrai.
Extrait des Troyens pour vous accueillir, Mathieu. Les Troyens, un opéra XXL de Berlioz. 16 solistes, vous imaginez, 16 solistes. 3 chœurs, un immense orchestre, le plus important jamais pensé pour un opéra. 100 musiciens dans la fosse, 200 artistes sur la scène. Ah oui, c'est du très grand. Hein. Ah oui. Eh oui, vous imaginez. Et tout cela pourquoi ? Bah pour le plaisir des mélomanes, bien sûr. La première a lieu le 25 janvier hein, de ce mois, donc. Et aussi pour fêter les 350 ans de la création de... l'Opéra de Paris.
Comme je calcule assez vite, je vous le dis donc sous Louis XIV.
Oh là, oui, exactement. Ouais, bah oui. Et il s'en est passé bien des choses depuis le 28 juin 1669, le jour où le roi signe les lettres patentes, les décrets de l'époque, donc donnant naissance à l'Académie d'Opéra. Et on en a entendu de la musique dans les 14 lieux parisiens qui ont abrité successivement cette institution. Alors vous connaissez évidemment les deux derniers en date, le Palais Garnier, inauguré en 1875, et l'Opéra Bastille qui fête ses 30 ans d'ailleurs, qui a ouvert en 1989.
Et pour ses 350 ans, l'opéra a mis les petits plats dans les grands.
Oh que oui, avec une saison extrêmement riche qui mêle ballet et opéra. Vous allez me dire, c'est normal à l'opéra. Hein. 32 programmes différents, du Berlioz donc, un cycle de musique russe, du Wagner. Je survole, hein, je vais très vite. Le mieux est d'aller sur le site de l'Opéra de Paris qui va, à l'occasion de cet anniversaire, quitter ses murs. Il va se promener le musée d'Orsay, le centre Pompidou Paris et Metz, la Bibliothèque Nationale de France et plusieurs théâtres en région vont accueillir des expositions, des conférences, des cours. Et puis il y aura un gala exceptionnel, le gala des 350 ans de l'opéra. Ça sera le 8 mai au Palais Garnier. Alors pour finir, parce qu'on dit toujours l'opéra c'est cher, et c'est en effet c'est parfois cher, quelques tuyaux pour aller à l'opéra sans payer une fortune. Écoutez bien, tout d'abord, il y a des représentations pour les moins de 28 ans, c'est 10 euros la place. Moins de 28 ans, 10 euros. Alors il faut guetter, hein. Il faut être derrière son écran d'ordinateur.
Ouais, ça part vite.
Si vous êtes plus âgé, oui ça arrive, les premiers prix pour un opéra à Bastille par exemple c'est 5 euros. Et
comment
à Bastille, 5 euros. Et quel que soit l'endroit, alors cette immense Bastille, hein, quel que soit l'endroit, on voit le spectacle.
Alors, enfin, il n'y a pas d'angle mort.
Non, il n'y a pas d'angle mort, en effet. Enfin, si vous êtes en province et que vous ne venez pas à Paris, la plupart des productions de l'Opéra de Paris sont rediffusées dans les cinémas UGC.
Ça, c'est absolument génial. Oui. Ma grand-mère, qui est fan d'opéra, qui ne monte pas à Paris tous les deux jours, elle est niçoise, il y a un opéra à Nice, mais elle va au cinéma, elle va voir ça, ouais, je suis allé avec elle. C'est génial, le son est excellent.
Super production. Oui.
Et on voit super bien, du coup, forcément,
oui,
vu que c'est filmé.
Très beau.
C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Thierry. À présent, je me tourne vers celui qui, par ses frasques à Las Vegas la semaine dernière, a proprement sidéré son chef, Mathieu Charrier, qui, incrédule, me demandait vendredi...
Et Martinez, il
est bourré, oui.
Grégoire Martinez, on vous retrouve aussi. On vous retrouve à San Francisco, aux États-Unis, où le shutdown provoqué par Donald Trump a des conséquences inattendues.
Oui, imaginez, le site du ministère de la Justice, celui de la Cour d'appel ou encore celui de la NASA sont inaccessibles, ou presque, depuis plusieurs jours. Et tout ça en raison de ce fameux shutdown, ce blocage de l'administration fédérale suite à l'absence d'accord sur le budget qui est devenu ce week-end le plus long de l'histoire des États-Unis. Alors ici, sur les chaînes d'infos, on ne parle que de ça. CNN accuse Trump, Fox dit que c'est de la faute des démocrates et on parle des conséquences que ça a déjà sur les employés de l'administration. Mais donc, ça veut aussi dire que les Américains ne peuvent plus se connecter sur certains sites du gouvernement. 80 au total sont concernés et qu'ils ne peuvent plus effectuer certaines démarches en rapport avec la justice, par exemple.
Comment ça se fait ?
Alors évidemment, ce n'est pas le gouvernement qui a dit « Allez, on ferme ces sites », c'est dû à l'absence de renouvellement de ce que l'on appelle le certificat de sécurité. Alors là, comme ça, ça peut sembler très technique, mais c'est le petit cadenas vert que vous trouvez en haut de certaines pages internet sur votre navigateur et qui indique que votre connexion à ce site est sécurisée. Là, elle ne l'est plus, donc à la place, vous avez un message d'erreur et vous ne pouvez plus accéder à rien.
Mais tout ça, c'est temporaire.
Alors oui, évidemment, c'est temporaire, mais ça a une autre conséquence. Les sites n'étant plus sécurisés, ils sont plus vulnérables à une cyberattaque. Et comme une partie des employés en charge de la sécurité informatique sont eux aussi touchés par le shutdown et ne travaillent plus, les États-Unis sont beaucoup plus vulnérables à une attaque informatique et à des pirates qui pourraient, par exemple, vouloir récupérer des données sensibles, celles des utilisateurs de certains sites de l'administration, par exemple, parce qu'en plus de la justice, l'administration fédérale administre aussi les sites liés à la santé.
Merci beaucoup Grégoire Martinez, j'espère que vous n'avez pas donné d'idées aux hackers hein, par cette chronique peut-être un peu trop précise. Merci quand même. Eva Rock, qu'est-ce qu'on garde? Ah non, on peut pas du tout à la télé ce soir, c'est sur les écrans.
Non, c'est sur Netflix, exactement, c'est la nouvelle série Netflix qui s'appelle Sex Education, qui est destinée aux adolescents, en tout cas la plateforme de vidéo à la demande le présente comme ça. Alors soit je suis toujours une ado, soit les adultes vieillissants trouveront un intérêt à regarder cette comédie. Le pitch est ultra simple, c'est le quotidien d'Otis, un lycéen dont la mère est thérapeute sexuelle, Eric son meilleur ami homosexuel et Maëve une fille sublime qui le fait rêver. Et au lycée, ses camarades ne pensent qu'à une chose, le sexe. Et avec Maëve, ils ont d'ailleurs une idée.
Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial et toi de la thérapie.
La thérapie ?
La thérapie sexuelle, comme ta mère.
Wow, sexologue, non mais t'imagines ? C'est un super plan, tu pourrais être populaire.
Et voilà comment Otis va se transformer en thérapeute sexuel. Évidemment, je vous recommande en version originale cette série. Une série anglaise qui est très réussie. Avec humour, elle s'attaque à un sujet extrêmement difficile à traiter sans tomber dans la caricature, la sexualité chez les ados. Il y a question de désir, de frustration, de ce qui est refoulé. La réalisation, elle est parfaite, portée par une bande originale très rock et surtout par d'excellents comédiens avec une mention particulière à Gillian Anderson et Will Scully dans X-Files qui endosse le costume de la sexologue névrosée et quelque peu nymphomane. Elle est absolument parfaite avec des airs de Glenn Close. Elle est l'une des rares adultes dans la série, une adulte parfois moins mature que son fils Otis. Sex Education, c'est la série à voir absolument sur Netflix.
Vous semblez découvrir que Gillian Anderson est une bonne actrice, mais
non, elle est
depuis
formidable,
elle avait joué dans The Fall, qui est une excellente série policière.
Mais elle est encore mieux que dans The Fall, c'est si je peux me permettre. Oui.
Ça me donne envie de regarder.
Ouais, j'espère.
Au-delà du thème. Mais merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Thierry, s'il vous plaît, pour fêter l'opéra, 3 secondes d'un air de votre choix. Dites-moi Thierry, la Donna Immobilier.
Oh, non, mais je l'ai déjà chanté, vous devez l'avoir
dans... Ah non, je l'ai pas.
La Donna Mobile. La suite demain.
Oh, suspense. Eva, votre réaction?
Ça donne envie, hein.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Calma.
Il est 5h59, Mathieu Noël.
L'heure d'un point météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. De faibles averses ce matin, quasiment partout.
Oui, un petit peu de neige également sur les reliefs. Attention au risque d'avalanche qui reste fort sur les Savoies. Là où le temps est plus calme, avec même des éclaircies ce matin, c'est entre la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne et le nord de la région centre. Ce sera pour tout l'ouest cet après-midi, le soleil. Et puis pour les autres, hein, ça reste faiblement pluvieux. Bien couvert cet après-midi des Landes aux Pyrénées-Orientales. Le tout sous des températures qui baissent un peu, mais qui restent douces pour la saison. Il fait 9 à Paris ce matin et cet après-midi. Ça grimpera jusqu'à 18 degrés du côté de Bastia cet après-midi.
Merci Céline.